C'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, Julie, le régime russe veut convaincre la société russe qu'elle est désormais haïe des Occidentaux.
Oui, la russophobie est un terme qui se propage dans les discours officiels, pas seulement lorsqu'il s'agit, comme ce week-end, de dénoncer les propos du Premier ministre polonais, qui a parlé de la nécessité, selon lui, de détruire le monde russe dans une tribune pour le quotidien britannique The Telegraph. Il se trouve que Mateusz Morawiecki reconnaît lui-même que la détestation de la Russie est la raison d'être de son pays. Le terme de russophobie était déjà employé par Vladimir Poutine pour parler des populations russes dans le Donbass. Victime de russophobie, premier pas vers un génocide, disait déjà le président russe en décembre. Il a encore été utilisé avant-hier par Sergueï Lavrov à propos des renvois de diplomates. Bonjour Anna-Colin Lebedev.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de conférence à Paris-Nanterre et vous êtes spécialiste de l'Ukraine et de la Russie post-soviétique. Depuis quand ce mot de russophobie est usité dans le discours politique russe et avec quels effets sur ce qu'il serait présomptueux d'appeler l'opinion publique russe, mais au moins une grande partie d'entre elles?
En réalité, le mot de russophobie est assez ancien. On le fait remonter au 19e siècle, où il était utilisé dans un sens relativement proche d'aujourd'hui, à savoir voilà une critique de la Russie mélangée à la critique du pouvoir russe. Alors, en Russie contemporaine, c'est un mot qui n'apparaît pas dans le discours politique dans les années 1990, et même dans les années 2000. Et c'est seulement à partir de 2014 qu'effectivement, eh bien, il revient. Et il revient très activement, dans un premier temps, chez Vladimir Poutine, dans beaucoup de discours du style de celui que vous avez évoqué, et puis ensuite eh bien chez une totalité des responsables. Alors le mot de russophobie, en étant assez ancien, il est assez flou, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi il s'agit exactement. Est-ce qu'il s'agit d'une détestation des Russes en tant que peuple, d'une détestation de la culture russe ou d'une critique de l'État russe? Et je dirais que le pouvoir russe joue énormément sur cette ambiguïté pour faire passer toute critique des agissements du Kremlin ou de la politique russe pour en fait un dénigrement de la culture ou du peuple russe.
Même les exilés russes aujourd'hui en parlent, ceux qui ont fui la Russie parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le régime de Vladimir Poutine, commencent à parler de russophobie les concernant dans les pays d'accueil.
Alors effectivement, un certain nombre de réactions à l'invasion de l'Ukraine par la Russie au mois de février 2022 ont suscité un qualificatif de russophobie. Par exemple, l'arrêt des coopérations, notamment des coopérations en matière culturelle, l'annulation d'un certain nombre de spectacles ou de représentations, eh bien, ont été immédiatement décrites en Russie, mais aussi ailleurs, sous le terme de russophobie. Et puis, c'est vrai que les politiques de sanctions à l'égard de la Russie ont eu un véritable impact aussi sur les Russes qui ont fui la guerre, par exemple, eh bien, on contrôle davantage leurs comptes bancaires, leurs cartes russes ne passent pas dans les distributeurs occidentaux, et cet effet politique est interprété par eux comme, je dirais, voilà, et vu aussi comme une politique qui est orientée contre eux et contre le russe ordinaire.
Tout comme en Ukraine, le déboulonnage, la destruction de monuments de l'ère soviétique. Vous avez commencé à y répondre, Anna-Colin Lebedev, de quelle russophobie parle Vladimir Poutine ou Sergueï Lavrov? S'il y a un autre mot qui est apparu dans le discours officiel russe ces dernières années, en fait depuis le retour à la présidence de Vladimir Poutine en 2012, c'est le mot « ruski », en lieu et place de « rossiski ». Ce sont deux façons de parler de la nation russe.
En effet, et c'est une distinction qui est apparue en fait à l'indépendance de la Russie, ou disons à la fin de l'Union soviétique, où en fait on a pris bien soin de distinguer ce qui relevait de l'État russe, c'est le terme rassiski, et ce qui relevait en fait de la nation russe au sens, je dirais, ethnique et culturel du terme, et là on parle de ruski. Et en effet, pendant longtemps, en fait, on va, voilà, cette distinction quelque part permettait de faire la part des choses, dans la mesure où la Russie était censée être un État multiethnique, et donc ça permettait de distinguer en fait la dimension étatique. Sauf que dans russophobie, qui est un terme plus ancien, eh bien il n'y a pas cette distinction, et je dirais que le pouvoir russe clairement va jouer sur l'aspect où il va interpréter toute critique de l'État russe, de ce qui relève du racisme, qui est comme une critique de ce qui est russe, ce qui relève du ruski, avec un amalgame tout à fait volontaire. Et donc en fait, aujourd'hui, le pouvoir russe va même réutiliser d'ailleurs un concept occidental. Il va parler de la cancel culture qui s'applique à la Russie, avec l'idée que en fait l'un des projets de la guerre que l'Occident est censé mener contre la Russie, c'est d'annuler la Russie. Hein. Cancel Russia est un projet qui nous est attribué et donc toute action contre l'État russe est interprétée de cette manière.
Les Ukrainiens, eux, font partie de cette nation russe au sens ethnique pour Vladimir Poutine, qui a jadis qualifié lui-même de fraternelle la culture ukrainienne. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce rapport? Comment vous, Anna Colin-Lebedev, le voyez-vous évoluer, encore une fois, dans les discours, dans les mots, ce rapport entre des Russes à l'Ukraine?
Vladimir Poutine est allé, disons, le plus loin encore que cela, en affirmant que Russes et Ukrainiens étaient un même peuple. Hein, entre un même peuple et des peuples frères, il y a une différence. Mmh. Je dirais qu'il y a là une dimension que souvent on n'ose pas mettre en avant, qui est une dimension quasiment coloniale du rapport entre la Russie et les anciennes républiques ayant composé l'Union soviétique. Alors, les spécialistes du colonialisme ont pendant longtemps rejeté l'idée que l'État soviétique était une puissance coloniale, dans la mesure où les citoyens des républiques non-russes de l'Union soviétique bénéficient des mêmes droits. Hein, il y avait une égalité politique entre les citoyens de la Russie et les citoyens des autres républiques. Cependant, je dirais quelque part, il n'y a pas besoin que le colonialisme ait pris des formes classiques en Russie pour qu'on soit aujourd'hui dans une situation post-coloniale, notamment d'un point de vue, je dirais, des identités et d'un point de vue culturel. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont cherché à se détacher de la Russie, y compris culturellement, en raison de ce qu'ils interprètent comme une oppression de leur nation, de leur langue et de leur culture, qui a été opérée tout au long de l'Union soviétique. Et autant, je dirais, côté russe, par exemple, chez ceux qui ne soutiennent pas la guerre en Ukraine, ils sont tout à fait capables de condamner, en fait, les actions militaires de la Russie, autant cette volonté de prendre de la distance culturellement est extrêmement mal acceptée en Russie et mal comprise en Russie. Ce qui, moi, m'amène à penser qu'on est encore, en fait, dans une logique coloniale où les Russes pensent que leur culture, je dirais, et leur culture s'impose aux autres, hein, que l'espace culturel est forcément commun, que la culture russe devrait être dominante sur ces territoires parce qu'elle y était présente.
3 mois après le début de l'invasion de l'Ukraine, quelles informations en ont les Russes? Et leur démobilisation veut-elle dire assentiment? L'invité des enjeux internationaux et la chercheuse Anna Colin-Lebedev.
Et depuis le 24 février, on a essayé à maintes reprises de sonder, si ce n'est le sentiment, du moins l'attitude des Russes face à la guerre, attitude construite aussi sur les informations dont ils disposent. Et malgré le fait qu'on ait rappelé dès le départ qu'il y avait des interactions familiales, amicales entre Russes et Ukrainiens, qu'il n'était pas possible que la réalité de la guerre ne soit pas très rapidement connu de tous en Russie, eh bien on a l'impression, Anna Colin-Lebedev, que près de 3 mois plus tard, rien n'a changé. Quelle information a aujourd'hui la population russe de la guerre ?
L'information dont les Russes disposent aujourd'hui est un petit peu différente, ou je dirais même radicalement différente, sans être plus juste par ailleurs, de ce qu'il y avait au début de la guerre. Hein. Au début de l'invasion, la Russie, rappelez-vous, tablait sur une opération rapide, éclair d'annexion du pays, opération militaire spéciale, etc. Donc en fait, il y avait une volonté de minimisation. Depuis quelque temps, hein, depuis plus d'un mois maintenant, l'idée est au contraire, puisque la guerre s'enlise, de montrer une guerre plutôt intensive. On montre les destructions, on montre les attaques côté ukrainien, mais je dirais le cadre interprétatif reste le même. Le cadre interprétatif est celui d'une population ukrainienne qui demande en fait à la Russie de la libérer d'un pouvoir criminel, hein, d'un pouvoir qualifié de néo-nazi. Donc en ce sens-là, je dirais, le discours n'a effectivement pas évolué, ce qui ne veut pas dire que les Russes ne sentent pas que des choses sont en train de se passer, qu'on ne leur montre pas. Hein. Mais cela, en fait, les sondages d'opinion publique qui sont menés de manière dépendante ou indépendante ne peuvent pas véritablement en rendre compte.
Mais par exemple, vous qui avez, Anna Colin-Lebedev, travaillé très longtemps sur les mères de soldats, celles-là même qui se sont mobilisées très souvent pendant les différentes guerres que la Russie a menées, que ce soit en Tchétchénie ou ailleurs, pour dire voilà ce que nos fils deviennent, voilà leur corps, il faut cultiver cette mémoire-là, et elles se sont beaucoup inscrites contre les guerres. Elles n'ont pas réussi à mobiliser l'opinion publique.
Je dirais que les capacités aujourd'hui pour le russe ordinaire de s'exprimer dans l'espace public sont extrêmement réduites. Et là réside toute la différence. Quand on a interrogé en fait la responsable du mouvement des mères de soldats qui a fait toutes les guerres depuis la fin de l'Afghanistan jusqu'à aujourd'hui et qui a donc observé ses mères agir face à leurs enfants, faits prisonniers, tués, disparus en terrain de guerre, elle dit qu'en réalité, quantitativement, il n'y a pas véritablement de différence. C'est-à-dire que dans la guerre en Tchétchénie, par exemple, eh bien, un grand nombre de mères ne se sont pas non plus mobilisées, ont accepté le retour du cercueil, ont vécu de manière tout à fait privée le deuil, sans forcément agir dans l'espace public. Mais un petit nombre, en fait, a pu faire la différence parce que la possibilité de critiquer l'État n'était pas pénalisée. Donc, en fait, aujourd'hui, on est dans un contexte où les Russes, quand ils répondent oui au soutien à leur président en guerre, eh bien, derrière ce oui, il y a une palette vraiment extrêmement variée d'attitudes et de véritables opinions par rapport à la guerre ou de véritables positionnements par rapport à la guerre. Il y a ceux qui croient à la propagande, effectivement, et je pense qu'il faut pas, il faut pas les négliger, ils existent. Et puis, il y a ceux qui, disons, se disent qu'il est mieux qu'ils répondent de cette manière-là. Il y a ceux qui se disent qu'ils ne sont pas assez informés. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont contrôlés. Il y a ceux qui se disent qu'il faut soutenir son pouvoir quoi qu'il advienne, etc., etc. Hein, donc, je dirais que dans ce oui, il y a beaucoup de la stratégie de fermer les yeux pour rendre la situation supportable.
C'est-à-dire que des milliers de Russes ont pu manifester contre le pass sanitaire pendant l'épidémie, mais pas contre la guerre en Ukraine. Ça, c'est, pour nous, vu d'ici, c'est évidemment une contradiction, mais finalement pas tant que ça.
En réalité, pas tant que ça, parce que déjà, les possibilités étaient bien évidemment pas les mêmes, hein, et les risques n'étaient pas les mêmes, mais surtout, en fait, à mon sens, la manifestation contre le pass sanitaire a pu se cristalliser parce que, en introduisant le pass sanitaire, qui était pourtant l'une des rares mesures protectrices introduites par l'État russe, l'État empiétait sur le domaine de la vie personnelle, de la vie familiale, du quotidien des Russes, ce qui leur est au final absolument insupportable. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à accepter beaucoup de choses, beaucoup d'actions du pouvoir, tant que cela n'empiète pas sur leur possibilité de vivre, travailler, avoir des loisirs, élever leurs enfants et finir leur vie dans une relative sécurité.
Le pouvoir est une interaction, il agit en fonction de ce qu'il perçoit des lignes rouges de sa société, écriviez-vous ce week-end, Anna-Colin Lebedev, sur votre compte Twitter. Je le mentionne, c'est assez exceptionnel, mais parce qu'il est très très suivi pour comprendre ce qui se passe en Ukraine et c'est un relais d'information très précieux et c'est pour cela, disiez-vous, que Vladimir Poutine sans doute n'a pas décrété à ce jour la mobilisation générale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à Paris-Nanterre.
Merci, les enjeux c'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve demain pour de nouveaux enjeux territoriaux à 6h10 et vos enjeux internationaux, Julie Gacon à 6h45.
France Culture. L'esprit d'ouverture.